Bonjour Claude France Arnoux, merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui. Vous êtes actuellement conseillère pour les affaires européennes au sein de l'Institut français pour les relations internationales, mais avant ça vous avez fait beaucoup de choses au sein de postes divers. Donc dans ce podcast on s'intéresse aux carrières internationales et c'est pour cela qu'on souhaitait s'entretenir avec vous pour que vous puissiez retracer votre parcours. Pour commencer, est-ce que vous pouvez juste nous dire nous en dire un peu plus sur vous, où vous avez grandi, où vous êtes née?
Voilà, entre Rueil-Malmaison, qui est à l'ouest de Paris, puis les classes préparatoires à Versailles, puis entrée à l'époque où l'école normale supérieure était séparée entre filles et garçons. Donc les filles étaient boulevard Jourdan, en lettres, moi je suis entrée, et puis après j'ai étudié en partie à la Sorbonne, et moi c'était Paris 4. À la fois en lettres classiques et puis en art et archéologie, histoire de l'art et archéologie. L'idée initiale étant de faire de l'archéologie grecque, et c'était une époque totalement révolue, où c'était un peu difficile pour les filles. Donc du coup, j'ai fait l'ENA avec cette idée d'être conseiller culturel. Donc Sciences Po, puis l'ENA. Et puis j'ai choisi finalement le ministère des Affaires étrangères, où là j'ai travaillé sur les affaires européennes. Ce qui m'a mené, d'une part, les postes que j'ai eus, les postes en ambassade, c'était comme conseiller à l'ambassade de France, à l'époque à Bonn, en Allemagne, avant le déménagement à Berlin. Et puis à la fin de ma carrière, comme ambassadeur à Bruxelles, auprès du Royaume de Belgique. Mais entre-temps, et pendant 15 ans, j'ai été dans les structures de l'Union européenne où on a mis en place des organes pour s'occuper de la gestion de crise et de la défense. Donc d'abord directeur pour les questions de défense, puis directeur exécutif de l'Agence européenne de défense.
Très bien, on va revenir un peu sur chaque, comme ça vous pourrez nous expliquer. Du coup, vous avez fait l'ENS, Sciences Po et l'agrégation aussi en lettres, c'est bien ça. Est-ce que vous avez aimé vos études de manière générale?
Oui et non. J'ai beaucoup aimé les classes préparatoires qui m'ont beaucoup appris. Alors moi j'étais dans une toute petite classe préparatoire, à Hippocagne à Versailles. On n'avait pas beaucoup de chance de réussir le concours, mais c'était de toute façon une bonne formation. Puis voilà, les choses ont fait que le concours, que je suis rentrée la première année à Normalsup. On était trois d'ailleurs dans cette toute petite cagne de 13. Et donc ça j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Normalsup c'était un moment très particulier. Dans l'après-68, dans les années 70, où les carrières dans l'université étaient bouchées, tout avait été rempli pendant les années 68, enfin après 68, et donc où la probabilité d'enseigner le grec, pas même d'ailleurs à l'université, mais même dans un lycée, était faible. Et donc ça, c'est une partie qui était un peu étrange, si vous voulez, où il y avait finalement un détournement de la raison pour laquelle vous vous étiez quand même donné du mal pour entrer dans cette école et pour passer effectivement une agrégation de lettres classiques. Mais les études elles-mêmes et le contenu des études, j'ai beaucoup aimé, de même que j'ai beaucoup aimé et ensuite hésité à poursuivre en histoire de l'art. En gros, j'ai aimé les études, beaucoup, elles m'ont évidemment apporté un bagage très important pour le reste de la carrière. Je crois qu'un bagage en lettres est très utile, quoi qu'on fasse, même après.
Passons maintenant à votre carrière, après vos études. Quel a été votre premier emploi, même un job étudiant, votre première expérience professionnelle?
Ah non, moi j'ai pas eu de job étudiant. Vous savez, les normaliens sont des fonctionnaires stagiaires. Donc ils n'ont pas besoin de job étudiant, et j'ai été, à l'époque il y avait un concours qui s'appelait les IPES, que vous passiez à 18 ans ou 19 ans, donc qui faisait de vous un professeur stagiaire. À Savigny-sur-Orge, et où on est encore sortant d'une agrégation de lettres classiques, on m'a confié une classe de G2, des élèves qu'on mettait dans une filière comptable. Là ça m'a beaucoup appris humainement, j'ai beaucoup aimé les élèves. Moins la manière dont on les avait orientés et sélectionnés. Mais c'était vraiment une belle expérience. Puis après, j'ai été prof en responsabilité à Alençon, mais le temps de passer le concours de l'ENA, donc ça a duré 3 mois. Et là aussi, j'ai beaucoup aimé les élèves, y compris les élèves de troisième, j'ai une troisième et une seconde, qui avaient des difficultés et qui étaient vraiment très attachants. Et je pense qu'on pouvait les sortir assez facilement de ces difficultés.
Très bien. Donc, l'enseignement. Donc, vous commencez à travailler au ministère des Affaires étrangères en 1981. Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler dans ce ministère ? Est-ce que
c'était... Alors, comme vous savez, à l'époque, existait quelque chose qui s'appelait l'ENA. À l'époque, existait dans cet ENA quelque chose qui s'appelait le classement de sortie. Donc, vous choisissiez votre poste en fonction du classement de sortie. Donc, comme je voulais être conseiller culturel, j'avais pris la culture. Et puis, on m'a expliqué que ce n'était pas si simple que ça et qu'il valait mieux prendre le ministère des Affaires étrangères, ce qui est une évidence hein, pour être conseiller culturel. Donc, j'ai pris le ministère des Affaires étrangères. Donc, le premier poste était à la direction d'Amérique.
Et vous avez, du coup, ce poste, il consistait en quoi ?
À direction. C'est ça, pour l'Amérique du Nord, mais chercher des questions économiques avec Canada et États-Unis. D'accord. Et donc là, j'ai découvert qu'on ne traitait pas les questions économiques avec un pays comme les États-Unis, ni même d'ailleurs le Canada, par le biais bilatéral, que c'était très largement du multilatéral, qu'il s'agisse d'agriculture, de commerce. Et donc, du coup, je me suis engagée dans la filière multilatérale et donc la filière Union. À l'époque, ce n'était pas l'Union européenne, Communauté européenne.
D'accord.
Donc, le second poste a été à la, ce qui s'appelait à l'époque Service de coopération économique, qui était ce qui est aujourd'hui la direction de l'Union européenne.
Du coup, cet intérêt pour l'Europe, c'était parce que vous vous rendiez compte que les questions étaient mieux traitées au sein de l'Union européenne ?
Elles étaient traitées au sein de l'Union européenne. Les questions économiques étaient traitées au sein de l'Union européenne. Donc, ce poste bilatéral était un faux poste. Et les questions dans le domaine économique. Hein. Et d'ailleurs, les questions stratégiques étaient aussi traitées sous l'angle stratégique, c'est-à-dire autant. Donc, c'est ce qui m'a fait effectivement faire le choix du multilatéral. Et puis après, quand vous tombez dans le bain des questions européennes, eh bien, on aime ou on n'aime pas, y compris la bataille interministérielle à Paris, et puis après, la négociation à Bruxelles. Il se trouve que j'ai vraiment aimé. Et puis j'ai...
Vous êtes ensuite nommée, après ces années au ministère des Affaires étrangères, première conseillère à l'ambassade de France en Allemagne. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce poste, du coup, en Allemagne ?
Un élément professionnel lourd, c'est-à-dire je suis absolument convaincue que le franco-allemand est déterminant dans la construction européenne. Et donc, aller travailler en Allemagne, c'était mieux connaître le fonctionnement allemand, en fait, en général, et dans le domaine européen en particulier, parce qu'on a des contacts permanents entre Paris et la capitale allemande. Permanent, à tous les niveaux, depuis le président de la République jusqu'au rédacteur, comme on dit, au Quai d'Orsay, c'est-à-dire la personne qui tient un dossier spécifique. Mais ça n'est pas pour autant qu'on comprend pourquoi le partenaire allemand prend telle ou telle position. Donc c'est pour ça que je suis allée à Bonn, et incidemment, pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que j'avais deux filles de 10, enfin j'ai toujours deux filles, mais elles avaient 10 et 11 ans, et je trouvais très bien qu'elles apprennent l'allemand. J'ai appris pour aller en Allemagne et je l'ai vraiment appris en Allemagne.
Très bien. Du coup, en quoi consiste ce rôle de premier conseiller dans une ambassade ?
Alors, ça dépend de l'ambassade. Ça n'est pas du tout la même chose dans une grosse ambassade comme l'Allemagne ou dans une plus petite ambassade. Donc, je peux vous répondre sur le rôle dans une grosse ambassade d'un pays avec lequel, comme je viens de le dire, les contacts sont à tous les niveaux permanents. Donc le rôle, c'est de faire comprendre à Paris ce qu'il y a derrière des positions allemandes, les hommes, le fonctionnement des institutions, le rôle des Länder, le rôle des partis politiques, le fait que c'est une coalition. Donc il y a tout cet aspect que seule l'ambassade peut apporter d'explication du contexte, enfin de qu'est-ce qu'il y a derrière une position qu'en général on ne comprend pas très bien parce que c'est vraiment un fonctionnement très différent du nôtre. C'est aussi d'expliquer aux Allemands en prenant tout le temps et pas seulement aux diplomates ou aux fonctionnaires avec lesquels Paris est en contact, mais d'expliquer plus largement nos positions. Donc il y a tout un travail de communication sur ce qu'est la France de manière générale et sur ce que font pourquoi les Français prennent telle ou telle position. Puis bon, il y a aussi le fait qu'à l'intérieur de l'ambassade, le premier conseiller dans une grosse ambassade a la responsabilité de la chancellerie politique. Donc les Allemands appellent ça d'ailleurs Leiterin, la directrice de la chancellerie politique. Donc vous avez un rôle de coordination En plus, a été décidé à ce moment-là par le ministère des Affaires étrangères de désigner une personne pour coordonner ce qui était fait dans le cadre européen. Et d'ailleurs, ça coïncidait avec une présidence française quand j'y étais. Et donc, du coup, alors que je m'étais dit que je n'allais pas du tout m'occuper d'affaires européennes, mais de défense, ce qui était l'objectif aussi de commencer à mieux comprendre les questions de défense, moi, je me suis quand même retrouvée, j'ai quand même pu travailler sur les questions de défense, mais à coordonner l'action des collègues, parce que dans une grosse ambassade comme ça, vous avez énormément de services qui dépendent d'autres ministères. Il y a le conseiller financier, le service économique, l'attaché de défense qui est évidemment une grosse équipe en Allemagne, un attaché agricole, un attaché fiscal. Enfin, il y a toute une équipe interministérielle et ça fait partie du rôle très important d'une ambassade, c'est-à-dire que vous avez une synthèse au niveau du pays des positions et des travaux des différents ministères.
Donc de 1998 à 2001, vous êtes directrice des affaires internationales et stratégiques au sein du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce à quoi correspond ce secrétariat ?
Alors moi j'y suis allée toujours pareil, avec une espèce de constance dans le parcours pour du coup traiter des questions de défense, mais dans une structure mixte, c'est-à-dire le SGDN, aujourd'hui, est un secrétariat général qui dépend du Premier ministre et qui, dans toute une série de domaines qui ont trait à la sécurité, réunit des équipes qui sont de différentes origines, notamment des militaires, des diplomates pour la direction que moi j'avais, j'étais la diplomate, ou des chercheurs, des contractuels. Vous avez aussi toute une partie qui est sur les technologies liées à la sécurité, et une partie qui s'est beaucoup développée depuis d'ailleurs, notamment avec l'émergence des risques venant des nouvelles technologies ou des risques hybrides. Et puis vous avez une partie qui traite de la sécurité intérieure, où là vous avez à la tête, au lieu d'avoir un diplomate comme dans la direction dans laquelle j'étais, vous avez un préfet. Et donc c'est une structure qui est très intéressante parce qu'elle est interministérielle, elle couvre tous les sujets relatifs à la sécurité, et donc elle mêle du coup des personnels d'origines diverses. Et donc c'est là que moi j'ai appris, grâce aux militaires qui étaient dans ma direction ou qui étaient les adjoints du secrétaire général, les questions de défense, puisque ça a coïncidé avec le début de l'opération de l'OTAN au Kosovo.
Vous aviez une formation particulière sur la défense avant, ou c'est dans ce poste-là que vous avez vous êtes formée finalement
Alors à l'ENA, vous savez, à l'ENA, on avait la possibilité de choisir des options, donc j'avais choisi, entre autres, j'avais choisi deux options assez contrastées, l'une sur la gestion des théâtres lyriques européens, ça c'était pour le plaisir, et l'autre c'était le rôle de la désarmement conventionnel dans un contexte de dissuasion nucléaire. C'est une option qui a été très longtemps, c'est géré par le colonel Dabzi, qui a été très longtemps à l'ENA, une option sur les questions de défense. Donc j'avais eu cette formation là, à l'ENA. Et puis après, non, je ne me suis pas occupée de questions de défense. Et si vous voulez, au moment où on a conclu le traité de Maastricht, où il y avait la perspective de défense dans la construction européenne, moi je croyais dès ce moment-là beaucoup à la politique de défense européenne. Et donc il fallait apprendre ces sujets-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'apprendre en Allemagne. On a beaucoup travaillé avec le poste de défense, l'attaché de défense. Et puis l'approfondir en allant au SGD, aujourd'hui SN. Okay.
Et est-ce que vous avez été nommée ou est-ce que vous êtes de... Comment vous êtes retrouvée au secrétariat ?
Alors là, c'est une question qu'il ne faut pas prendre la réponse à la lettre, parce que ça dépend toujours de vous-même. Et puis un petit peu du contexte, et un petit peu de la chance ou de la malchance. Donc moi, je n'ai pas eu tous les postes que j'ai voulu, mais je n'ai eu aucun poste que je n'ai voulu. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a eu une idée qui ne m'aurait pas plu, c'était même pas concevable. Enfin, voilà. Donc, mais ça n'est pas un conseil. C'est juste que pour moi, ça a été comme ça. Parce que c'était mon caractère et parce que ça s'est bien passé. Donc, en Allemagne, j'ai demandé... les affaires européennes, j'ai demandé à y aller. En Allemagne, j'ai demandé à y aller. Et le SGDSN, eh bien, c'est la personne qui était directrice, on dit, de cette direction, qui m'a demandé si je voulais lui succéder. Et le secrétaire général était à l'époque une femme, Isabelle Renoir, qui m'a dit qu'elle souhaitait que je vienne. Et cooptation, mais si vous voulez, vous avez quelqu'un qui vous propose de lui succéder, et après, bah, le service concerné du Quai d'Orsay, normalement, dit oui. Et si vous voulez, tout le reste, c'est un mélange. C'était généralement une idée que moi, j'ai présentée aux autorités chargées de la nomination, et qui, après, ça devient plus compliqué quand ce sont des postes européens, mais qui ont été acceptés. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous êtes directeur, c'est une décision au Conseil des ministres. Donc vous ne pouvez jamais être sûr, ce n'est pas juste votre ministère ou ça n'est pas juste le GDN, il faut que ça passe au Conseil des ministres.
D'accord, très bien. Donc en 2001, vous intégrez le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dans lequel vous travaillez jusqu'en 2011, d'abord en tant que directrice pour les questions de défense, puis vous serez directrice gestion des crises et planification. Encore une fois, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondent ces deux postes et surtout la gestion des crises et planification, qui est un peu plus flou.
Alors, c'est un moment où, notamment après la... autour de la présidence française, on a vraiment décidé de lancer la défense européenne sur des bases beaucoup plus solides, puisque tout au début, c'était très prudent, notamment du fait de l'opposition des Britanniques, ça reposait notamment sur l'UE, l'Union de l'Europe occidentale, qui est un vieux traité, et donc plutôt que d'oser dire qu'on allait traiter la défense dans le cadre de la communauté européenne, de l'Union européenne, le bras armé, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, était l'UE. Avec la guerre dans les Balkans, il y a eu un ralliement franco-britannique au sommet de Saint-Malo. Les Britanniques se rendent compte que les Américains n'allaient pas toujours faire le travail à notre place. Et donc, même pour renforcer l'OTAN, même pour renforcer l'Alliance Atlantique, il fallait montrer qu'on était capable de traiter un conflit comme le conflit balkanique sur notre propre continent. Donc, il a été décidé de mettre en place des structures de gestion de crise. La question était de savoir, dans l'Union européenne, où on les situait. Il fallait que ce soit intergouvernemental. Il ne fallait pas communautariser la gestion de crise ou la défense. Donc, le mettre à distance de la Commission. Le seul endroit où on pouvait le mettre, ça a été au secrétariat du Conseil, qui traditionnellement avait plutôt un rôle notarial d'organisation et de compte-rendu, d'enregistrement des réunions du Conseil, et qu'on a doté d'un seul coup d'un état-major, qui était là un an avant que moi je ne sois nommée, d'une direction pour les questions de défense, enfin ça. Et puis d'autres structures, dont notamment une structure de renseignement, qui a donc été créée au secrétariat du Conseil. Et comme il n'y avait pas de compétences du tout, ni au secrétariat du Conseil, ni d'ailleurs à la Commission, pour traiter ces questions de défense, ils ont ouvert des concours à tous les niveaux. À l'époque, les plus hauts grades, c'était à 1, à 2, et puis ça descendait. Donc plus le chiffre était élevé, plus le grade était bas. Maintenant, c'est l'inverse. Donc vous commencez à des 4 et puis vous arrivez à des 16. Donc ce qui s'ouvrait et ce qui... Le seul poste pour lequel il y avait une chance d'avoir un Français, parce qu'il y a toujours quand même un petit peu, non pas de quota, mais d'équilibre géographique, était ce poste de directeur devenu directeur pour les questions de défense. Donc j'ai passé, sans même m'y attendre quand j'ai pris le train pour Bruxelles, je passais un concours. Donc c'était un entretien, mais de fait c'était un concours. Quand j'ai fini le concours, on m'a même parlé de ma retraite, donc j'ai cru, mais de quoi me parlait-il? Je suis là pour 2-3 ans, et en fait c'était vraiment un concours de fonctionnaires. Donc ils ont intégré à ce moment-là, et ça peut arriver de nouveau. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir en tête pour les étudiants, c'est-à-dire que quand il y a une compétence nouvelle qui s'ouvre à Bruxelles, dans l'Union européenne, si on manque d'expertise dans ce domaine, on ouvre des concours à différents niveaux. Ah, ça c'est la difficulté de tous les postes à l'Union européenne, il faut quand même une forme de feu vert de sa capitale, de Paris. Pour moi, ça n'a pas été évident, parce que j'étais la première, depuis il y en a beaucoup, hein. Je trouve, heureusement, la première venant des questions communautaires classiques, agriculture, budget, commerce, etc., qui osait s'aventurer dans le domaine de la défense. Donc ça n'allait pas de soi. Mais néanmoins, j'ai eu la bénédiction, c'était sous la cohabitation à l'époque, de Paris, et puis du coup, il y a un candidat français qui a été reçu au concours.
Très bien. Est-ce que la gestion des crises, est-ce qu'elle est réalisée de façon coopérative entre États, ou bien il s'agit d'une mission de conseil plutôt auprès des pays dans leur crise nationale?
Et notamment la vision française, c'était que l'Union européenne soit capable de mener des opérations militaires. Donc on a eu, ça a commencé en 2003, au début il n'y avait que des exercices militaires, c'est-à-dire sur le papier vous vérifiez que vous savez faire. Et puis après, en 2003, il y a eu une opération militaire en Bosnie qui prenait le relais de ce que faisait l'OTAN. Puis, beaucoup plus risquée et avec les moyens purement européens, une mission au Congo, en République démocratique du Congo, à la demande du secrétaire général des Nations Unies. Après, je ne vais pas vous passer toutes les opérations, mais donc on a mené à l'époque des vraies opérations militaires. Il fallait arrêter des exactions en Ituri, à l'est du Congo, qui étaient menées par des milices. Et donc, en 11 jours, une force de l'Union européenne, avec évidemment un leadership français, parce que c'est les Français qui avaient des positionnements et aussi la volonté d'y aller, hein, parce que beaucoup d'États membres ne sont pas prêts, n'étaient pas prêts à aller sur ce genre de terrain. Donc vous avez eu, mais aussi donc 80% de Français, mais aussi des Suédois et même des pays de la région qui ont contribué, notamment l'Afrique du Sud, le Brésil qui a contribué aussi au transport, donc vous voyez d'autres continents, et les Canadiens, donc des vraies opérations. Donc c'est pas de la gestion de crise, c'est pas la gestion des incendies ou des inondations. Ça existe, mais ailleurs. Donc ça m'était... Ou alors, ça peut nous concerner, on a cru qu'on aurait quelque chose à faire au moment du tremblement de terre en Haïti, quand les moyens civils ne suffisent plus et qu'il faut déployer des moyens militaires. Et donc, tout au long de ces années, on a répondu par des opérations à des menaces qui étaient reconnues comme prioritaires par les États membres, mais notamment la lutte contre la piraterie dans l'océan Indien. Donc tout ça a été fait dans ce cadre. Après, en 2008, donc la présidence française, il a été décidé de créer cette direction pour la gestion de crise, qui est quand même un drôle de titre, d'ailleurs qui est généralement connu en anglais, Crisis Management Planning Directorate, et qui effectivement ne dit pas grand-chose. Mais ce qu'on appelait la gestion de crise, c'était d'être capable, d'une part, de mener des opérations. Et moi, le rôle de ma structure, c'était des opérations militaires ou de l'entraînement, hein, enfin de la formation, mais dans le domaine militaire. Et puis, c'était de travailler aussi sur les capacités qui font qu'on est capable de se déployer.
Est-ce que c'est plus un rôle d'organiser techniquement ces mécanismes-là, ou est-ce qu'il y a aussi toute une partie, un volet politique?
Les deux. C'est-à-dire que si vous prenez une opération militaire, il faut un accord. Et à l'Union européenne, c'est d'ailleurs la même chose à l'OTAN, il faut un accord de tous les États membres. Donc aujourd'hui, on est dans ce qu'à l'OTAN on appelle le consensus, à l'Union européenne, c'est l'unanimité. Donc il faut que les États membres se prononcent pour cette opération, puis sur les différents documents de planification de cette opération. Et ça, le comité compétent, ça s'appelle le COPS, le comité politique et de sécurité. Donc il faut que vous soyez capable, un, de faire la planification d'une opération, ça c'était mon équipe qui savait le faire, puis eux, c'était des gens qui savaient planifier une opération militaire, qui venaient des ministères de la Défense. Et ensuite, il faut les faire adopter, et c'est là où le diplomate est utile, parce que moi, ce que je connaissais, c'est la mécanique de décision dans l'Union européenne. Donc eux, ils savaient ce que c'était qu'un déploiement militaire, et moi, je savais comment on prend et on fait prendre les décisions dans les différentes instances concernées.
Très bien. Par la suite, en 2011, vous devenez directrice exécutive de l'Agence européenne de défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle et le but de cette organisation, notamment ?
Donc c'était une organisation assez récente. J'étais le troisième directeur exécutif, donc elle avait été créée 6 ans avant. Elle a été appelée défense, mais elle ne couvre pas tout le champ de la défense. En fait, c'est l'armement.
Communautaire ou c'est vous occupez de chaque État?
Alors c'est un niveau européen, c'est-à-dire que à la tête de l'agence, vous avez un comité directeur, un board qui sont les ministres de la défense. D'accord. Mais ça n'est pas communautaire. Donc on n'a pas voulu communautariser, c'est-à-dire que c'est très précis, hein, la communautarisation. Ça veut dire monopole d'initiative de la Commission, rôle du Parlement européen. Donc ça, non. Enfin, personne n'était prêt à traiter la défense selon ses modalités. Les Français, c'est ce qu'on appelle de l'intergouvernemental. C'est-à-dire c'est des États membres, mais qui décident. mais avec une structure qui est là pour leur faire des propositions, mettre en œuvre, et avec la possibilité, ce qu'on oublie souvent, c'est éventuellement de passer justement au vote. Bah, par exemple, le directeur exécutif, il est élu à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant. Enfin, c'est un processus très très compliqué. Mais donc, c'est très important. C'est une agence qui n'est pas communautaire. Vous n'avez pas... Ce qu'on appelle communautaire, c'est quand vous avez les mécanismes de décision communautaire et notamment le monopole d'initiative de la Commission et le rôle du Parlement européen.
D'accord. Donc du coup, finalement, votre parcours s'est orienté vers la défense, vers l'Union européenne, et finalement, c'était un peu la réunion des deux.
Oui, c'était logique.
Mais pourtant, vous avez été ensuite après pour envoyé spécial pour l'espace au service européen pour l'action extérieure. Est-ce que c'est un gros changement, ça consiste en...
Non, pas du tout. Bon, déjà, le mandat, moi j'ai fait, mes prédécesseurs avaient eu 3 ans, moi j'ai eu 4 ans à l'Agence européenne de défense. Et donc ça faisait que mon mandat s'arrêtait en janvier, puisque j'avais été nommée le 11 janvier, donc je terminais le 11 janvier 2015. J'ai demandé à rentrer dans mon système national pour être ambassadeur quand même, puisque j'étais rentrée au Quai d'Orsay en 81. Et donc entre janvier et le moment où se font les nominations d'ambassadeurs, il y avait 6 mois en gros.
Combien de temps ?
Voilà, en fait c'était quand même... Et je revenais parce qu'entre-temps les structures avaient changé, donc le service d'action extérieure avait été créé, et moi j'avais été transférée statutairement du secrétariat du Conseil au service d'action extérieure. Et donc il y a eu cette idée du secrétaire général, qui était un compatriote, Pierre Vimont, et de notre discussion, que j'aille pas improviser d'être, je ne sais quoi, représentant spécial pour le Sahel, pour l'Afghanistan, où ma compétence était quand même limitée et difficile à acquérir en 5 mois, mais de se fonder sur ce que je savais faire, notamment les questions spatiales, parce qu'à l'Agence européenne de défense, il y a quand même des programmes spatiaux. Et donc, du coup, il y avait un sujet très, très précis, c'est la responsabilité du haut représentant pour les affaires étrangères et la sécurité, de répondre à un incident sur le système Galileo, l'équivalent européen du GPS, le système de navigation et de positionnement. Donc s'il y a un incident, c'est toujours pareil. Les États membres ne voulaient pas que ce soit la Commission, ils ont voulu que ce soit le haut représentant. Le personnel a quand même joué un rôle important. J'y vivais depuis 15 ans. Et quand vous êtes fonctionnaire européen, vous êtes posé en Belgique, mais vous ne connaissez pas vraiment... que ce soit le ministre ou que ce soit la direction générale de l'administration, c'est quelque chose que... Moi, je n'ai jamais eu de difficulté à dire non, je ne veux pas tel ou tel pays, parce que pour des raisons personnelles, c'est trop loin, ou je ne veux pas tel ou tel pays parce que je crois que j'y réussirai moins bien. Bon, mais je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Pour moi, ça a marché. Mais il faut mettre plusieurs choix. Donc, j'ai mis quand même quelques choix, sachant d'ailleurs... Il y avait peu de chance d'avoir les autres choix. Et donc j'ai eu le choix que je souhaitais, c'est-à-dire la Belgique.
Très bien. Votre mission, elle a été marquée par les attentats du 13 novembre 2015 en France, où la collaboration avec la Belgique a été importante. Est-ce que vous avez eu un rôle dans cette collaboration, puisque vous représentiez la France en Belgique ?
Alors oui, il se trouve que j'ai déposé, protocolairement, pour être ambassadeur, vous devez déposer ce qu'on appelle les lettres de créance, et en l'occurrence en Belgique, auprès du roi. Donc il se trouve que j'ai déposé mes lettres de créance le 12 novembre et que les attentats étaient le 13. Alors vous avez... il y a d'abord un rôle de représentation qui n'est pas nul, parce que le pays, et un pays comme la Belgique, que ça a particulièrement eu cette volonté, cherche à exprimer sa sympathie, sa solidarité. Donc il y a eu une manifestation qui était pour moi très impressionnante, qui est le dimanche, c'est ce qu'on appelle en Belgique la fête du roi. Donc vous avez à la chambre des députés, enfin ce qu'ils appellent la chambre, qui réunit d'ailleurs les députés et les sénateurs, de grandes cérémonies qui sont normalement purement belges. Donc vous avez la famille royale, c'est belge donc c'est compliqué, donc il y a la famille royale moins le roi, même si c'est la fête du roi. Et puis vous avez tous les corps constitués, le gouvernement, encore une fois, et ils ont demandé, ce qu'ils ne font jamais, à l'étranger que j'étais, mais parce que c'était les attentats, et puis c'était un contexte où ces attentats le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils nous rapprochaient, m'ont demandé de participer, de faire un discours. Et c'est la plus belle Marseillaise que j'ai jamais entendue de ma vie, parce qu'elle était chantée donc dans la chambre belge par d'ailleurs un merveilleux chœur. Donc c'était vraiment très émouvant. Donc ça, c'est la partie représentation, et ça, il a fallu le faire à plusieurs reprises, et puis il a fallu aussi donner...
Vous étiez ambassadrice depuis quand ? Depuis combien de temps ?
Ah ben, j'avais été nommée à Paris, si vous voulez, le 1er octobre, mais ce qui fait démarrer formellement, c'était effectivement un jour avant. Donc, et ça a continué, cette partie représentation, y compris aussi, parce que Bruxelles a été est passée au niveau d'alerte maximale, donc tout était fermé, il n'y avait plus d'accès, de retrouver d'ailleurs avec beaucoup de plaisir ce domaine culturel pour aller ensemble avec des autorités belges dans des musées, montrer qu'on pouvait quand même recommencer à vivre, recommencer à aller dans des lieux culturels, alors même s'il y avait la sécurité belge pas très loin. Mais bon, ça. La deuxième partie qui est plus importante encore, c'est les propositions qu'on peut faire à Paris et être le lien entre sa capitale et les Belges pour passer au-delà d'un moment qui a été très difficile, parce que le président de la République a dit publiquement que c'est à Bruxelles. Donc c'était le moment où tout le monde disait que les Belges avaient fait n'importe quoi et que tout ça venait de Molenbeek. Donc c'était de dépasser cette... l'accusation portée aux Belges, en voyant qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble en termes de coopération pour lutter contre le terrorisme. Et là, il y a eu ce qu'on a proposé ensemble avec les collègues de l'ambassade, notamment du ministère de l'Intérieur, de la Défense et des services de renseignement, où se sont retrouvés les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Justice et puis tous leurs directeurs compétents pour la lutte contre le terrorisme. Et donc, ça a été proposé, si vous voulez, par mon équipe, et du coup moi-même, mais c'est vraiment un travail d'équipe avec les collègues venant des ministères concernés. Et donc, il y a eu cette réunion où on est passé, là, encore une fois, du blâme, c'est la faute des Belges. Et là, le Premier ministre avait vraiment donné ce Manuel Valls ce signal. Et on a travaillé avec son cabinet et le cabinet de Charles Michel, Premier ministre à l'époque, Premier ministre belge, pour préparer cette réunion et ensuite préparer le suivi de cette réunion.
Et du coup, est-ce que vos connaissances et vos compétences sur la défense vous ont aidé à aborder cet événement ou...
Vu de l'extérieur, oui. Mais en fait, la défense et le terrorisme, ça n'est pas la même chose. Sauf la partie qui est d'aller frapper les camps d'entraînement en Syrie. Bon, ça, c'est de la défense. Mais sinon, c'était essentiellement de l'intérieur. Mais par contre, c'est de la gestion de crise.
En 2020, vous rejoignez l'Institut français des relations internationales. Quelle est la mission de cet institut et quel rôle vous occupez ? Qu'est-ce que vous faites ?
Mais c'est ce qu'on appelle un think tank. Donc, vous connaissez le système qui était originellement un système anglo-saxon, qui est de soutenir la décision, les décisions qui sont prises par la sphère publique, par un travail de réflexion, à la fois sur la base du passé, mais surtout en anticipation. Donc l'IFRI est le premier en fait think tank français qui a été créé par Thierry de Montbrial, qui a été aussi d'ailleurs le premier créateur de ce qu'on avait appelé le CAP, le Centre d'analyse et de prévision au ministère des Affaires étrangères. Quand il a quitté cette fonction, il a créé l'IFRI. Et donc depuis, l'IFRI est ce think tank qui traite l'ensemble des éléments de politique étrangère et d'enjeux stratégiques, et de plus en plus aussi technologiques.
Et vous, du coup, votre spécialité ?
Moi, c'est une non-spécialité, si vous voulez, c'est de conseiller le président sur les affaires européennes. Donc ça peut être beaucoup de choses, et c'est l'Union européenne certainement, mais je dois dire que quand il y a des questions sur tel ou tel pays de l'Union européenne, je me trouve à avoir à répondre à ces questions. Et c'est à la fois la participation à des cercles de réflexion, et puis c'est d'exprimer les journalistes ou les médias posent en permanence des questions, donc il faut aussi faire ce travail de communication.
D'accord. Maintenant qu'on a retracé l'ensemble de votre carrière, j'aimerais poser des questions un peu plus globales. Quelles qualités vous pensez avoir qui vous ont permis d'avoir des postes si différents et d'avoir eu le parcours ?
Quelles étaient vos ?
Les qualités que vous avez ou les caractéristiques que vous avez qui vous ont permis d'avoir le parcours que vous avez. et surtout des postes et des missions aussi nombreux et divers.
C'est à la fois divers et pas divers, enfin ça. C'est-à-dire, effectivement, on part des questions d'un appétit pour les questions culturelles et on se retrouve dans des questions de défense extrêmement concrètes. Je crois que d'abord, c'est l'élan pour ce qu'on fait. Et donc, je pense que j'ai la capacité de me passionner pour le sujet que je traite. Et puis de garder ma détermination à faire ce que je crois, ce que j'ai envie de faire ou ce que je crois devoir faire. Donc ça, je crois que c'est un atout important. Et puis après, c'est quand même d'avoir la flexibilité et la curiosité pour l'international. C'est-à-dire qu'on avance nullement, on n'obtient rien si on ne comprend pas ce que peuvent vouloir les autres et comment on peut travailler avec les autres. Donc ça, je crois que c'est un élément important de toute carrière internationale.
Très bien. Est-ce que pour vous, c'était important d'avoir une carrière brillante ou est-ce que c'est venu naturellement et vous êtes... est-ce que avant même vos études, est-ce que vous vouliez avoir un parcours riche et de réussite finalement ?
Bon, oui. C'est... Non, mais ne vous embêtez pas à préparer une grande école juste pour le bonheur des week-ends. Bon. Non, il y a une part, alors on l'appelle comme on veut, et le mot désagréable, c'est ambition, mais c'est aussi que plus vous réussissez à aller où vous voulez, plus vous avez une chance d'agir dans le domaine où vous avez envie d'agir. Donc, c'est pas chercher une carrière, il y a des tas de carrières qui ne m'auraient pas du tout intéressée, qui auraient pu être plus prestigieuses, mais juste ça ne m'intéressait pas et ça m'ennuyait. Donc c'est à partir du moment où il y a des sujets qu'on a envie de traiter, bah se donner les moyens d'avoir le plus de leviers possible. Et donc du coup, effectivement, le niveau de responsabilité approprié pour pouvoir avoir une efficacité dans l'action.
Est-ce que vous pensez que vous considérez qu'avoir été une femme a influencé votre carrière ou a eu un certain impact ?
Alors ça a influencé au début puisque l'école d'Athènes m'était fermée. Donc les filles, ça peut être décoratif sur un champ de fouilles. Moi j'ai quand même entendu ça quand j'avais 19 ans. Mais ça, vous n'imaginez plus aujourd'hui un directeur d'école, le directeur de Normal Sup disant ça. Donc ça a été le seul moment, mais c'est pour ça que j'oublierai jamais la phrase du personnage en question, ça a été le seul moment où je me suis dit que c'était un handicap d'être une femme. Tout le reste du temps, je ne l'ai jamais ressenti. Je n'ai pas non plus ressenti que c'était qu'il y avait des quotas. Je ne crois pas que j'ai... Dans aucun des postes, on ne se soit dit... mais le temps passe vite, hein, et ça paraît peut-être ancien. On va la nommer parce que c'est une femme. Y compris quand j'ai pas eu souvent des chefs femmes, j'ai eu Cathy Ashton, je pense pas du tout que pour elle ça ait joué. Donc, à part la toute première anecdote que je vous ai citée, pour moi ça n'a pas joué de rôle.
Très bien. Tant mieux.
Et l'avantage avec les militaires, c'est que j'avais pas fait mon service militaire, donc ils pouvaient pas compter mes étoiles. Donc j'étais juste un ovni.
Pas de comparaison possible.
Voilà.
Nous arrivons à la fin de cet entretien et pour finir, on aimerait pouvoir transmettre vos conseils aux étudiants auditeurs. Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants qui voudraient avoir une carrière diplomatique ou internationale ?
Ben, puisqu'on revient au grec, c'est vraiment connais-toi toi-même. C'est-à-dire fais ce que tu as envie de faire, mais ce que tu es capable de faire. Et donc, même si on veut une carrière internationale, je crois qu'il y a une grande variété des métiers internationaux. Et il faut sentir progressivement ce à quoi on est bon. Moi, j'ai connu des collègues qui ont fait un parcours très brillant et qui n'étaient pas du tout à l'aise dans les filières que moi, j'ai pratiquées. Donc, il faut se connaître de manière générale et en particulier de manière professionnelle et puis voir qu'est-ce qu'on a comme point fort, là où on va s'épanouir, où on va être bon et où on va apporter une valeur ajoutée.
Très bien. Et... aujourd'hui, est-ce que vous savez quels sont les types, par exemple, de profils qui sont recherchés dans la diplomatie ou...
Ah non, moi, je ne sais plus rien. Non, il n'y a plus de corps diplomatique, il n'y a plus d'ENA. Donc ça, c'est à vous de regarder ce qui va se dessiner.
Très bien.
Mais il y a toujours le concours d'Orient.
Le concours de...
Donc il y a plusieurs manières de rentrer au ministère des Affaires étrangères. Ça, il y a toujours un ministère des Affaires étrangères. Il y avait l'ENA et il y a le concours d'Orient qui recrute sur base de langues rares, soit russes, soit langues asiatiques, soit langues sur le continent africain. Et puis on a ajouté l'allemand parce que c'est très important. C'est pas que ce soit une langue rare, mais parce que c'est vraiment important de recruter des gens qui parlent allemand. Moi, j'ai présidé le concours là, l'année dernière. Ça, apparemment, dans l'état actuel de la réforme de la fonction publique, les gens qui ont passé ce concours et qui sont une denrée très très précieuse. Moi, j'ai fait l'ENA, mais il faut vraiment reconnaître ce qu'apporte ce concours d'Orient comme compétence. Ce sont souvent des gens qui ont fait, par exemple, Normale Sup ou Sciences Po, et puis Langzo, qui ont appris les langues orientales. L'INALCO. Et donc, qui sont cette modalité de recrutement. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que les modalités vont être établies, comment l'État va définir les filières internationales. Je n'en ai aucune idée.
Suspense. Oui. Bah très bien, nous en avons terminé. Merci beaucoup pour cet entretien et pour votre temps.
Je vous en prie. Merci beaucoup. Et tous mes voeux aux étudiants qui s'intéressent aux relations internationales.
Merci.